11. À peu près au moment où Ziboy est en train d'apporter la preuve qu'il sait encore compter jusqu'à 10, les cils poisseux de sang de Freddy Linklater se décollent de sa peau poisseuse. Elle regarde au fond d'un œil brun écarquillé. Il lui faut quelques secondes pour décider que ce n'est pas un œil, en fait, seulement un nœud dans les veines du bois qui ressemble à un œil. Elle est couchée sur le parquet et elle a la pire gueule de bois de sa vie. Pire encore qu'après cette fiesta d'apocalypse pour ses 21 ans, quand elle avait mélangé Crystal Meth et Ron Rico. Après coup, elle s'était dit qu'elle avait eu de la chance de survivre à cette petite expérience. Là, elle regretterait presque de ne pas y être restée, tellement c'est pire. Et c'est pas seulement sa tête. Elle a mal dans le torse, comme si Marshawn Lynch s'était servi d'elle comme mannequin d'entraînement au tacle. Elle enjoint à ses mains de bouger, et celles-ci obéissent à contre-cœur. Elle les ramène sous elle, comme pour faire des pompes, et pousse. Son buste se soulève, mais sa chemise du dessus reste collée au parquet dans ce qui ressemble à du sang, et dégage une odeur suspecte de whisky. C'est donc ça qu'elle buvait, et elle s'est cassée la gueule comme une idiote, cognée la tête et évanouie. Mais bon Dieu, elle en avait sifflé combien ? Non, c'est pas ça, se dit-elle. Quelqu'un est venu, et tu sais qui. Simple déduction. Dernièrement, elle n'a eu que deux visiteurs, les deux sbires Z. Et ça fait un moment qu'elle n'a plus revu celui en parka miteuse. Elle tente de se mettre debout et échoue. Elle ne peut respirer que superficiellement. Des inspirations plus profondes lui causent une douleur au-dessus du sein gauche. On dirait que quelque chose y est incrusté. Ma flasque ? Je la faisais tournicoter en attendant qu'il rapplique. Pour me filer mon dernier paiement et sortir de ma vie. « M'a flingué » croise-t-elle. « Putain de docteur Z m'a flingué !» Elle gagne la salle de bain en chancelant et peine à croire l'épave cabossée qu'elle voit dans la glace. Le côté gauche de son visage est couvert de sang et une boule violette a enflé au niveau d'une coupure au-dessus de la tempe gauche. Mais c'est pas ça le pire. Sa chemise bleue en toile chambrée est aussi imbibée de sang, dont une grande partie provient de sa blessure à la tête. C'est ce qu'elle espère. Les blessures à la tête saignent comme c'est pas possible. Et il y a un trou rond et noir dans la poche de poitrine gauche. Il l'a flingué, pas de doute. Maintenant, elle se souvient de la détonation et de l'odeur de poudre, juste avant qu'elle perde connaissance. Respirant toujours tout doucement, elle insère deux doigts tremblants dans sa poche et en retire son paquet de Marlboro Lights. La balle l'a transpercé. Le trou est là, en plein milieu du M. Elle lâche le paquet de clopes dans le lavabo, défait les boutons de la chemise et la laisse tomber par terre. L'odeur de whisky est plus forte maintenant. Sa deuxième chemise est kaki avec de grandes poches à revers. Lorsqu'elle essaie de retirer la flasque de la poche gauche, un rauque miaulement d'agonie lui échappe. C'est tout ce qu'elle peut se permettre sans respirer trop fort. Mais quand elle parvient à la libérer, sa douleur dans la poitrine diminue un peu. La balle l'a aussi transpercée. Et sur la face en contact avec sa peau, les échardes de métal retournées sont brillantes de sang. Elle laisse choir la flasque foutue sur les Marlboro et s'attelle au bouton de la chemise kaki. Ça prend un peu plus longtemps, mais finalement, la deuxième chemise tombe à terre. En dessous, elle porte un t-shirt American Giant, le genre avec une poche aussi. Elle glisse les doigts à l'intérieur et en ressort une petite boîte de pastilles Altoids. Elle aussi est percée d'un trou. Le t-shirt n'a pas de bouton. Freddy glisse donc son petit doigt dans le trou laissé par la balle et tire. Le tissu se déchire et enfin elle peut voir sa peau mouchetée de sang. Elle a un trou juste où commence la faible courbure de son sein et à l'intérieur, elle distingue une chose noire. Ça ressemble à un insecte mort. Avec trois doigts cette fois, elle déchire le reste du t-shirt, puis les enfonce dans le trou et pince l'insecte. Elle le fait aller et venir comme une dent branlante.
« Ouh, 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 putain !»
Ça sort. Pas un insecte, mais une balle. Elle la regarde, puis la lâche dans le lavabo avec les autres trucs. En dépit de son mal de tête et du palpitement dans sa poitrine, Freddy réalise la chance absurde qu'elle a eue. C'était rien qu'un petit revolver. Mais à bout portant, même un petit revolver aurait pu faire le boulot. Et il l'aurait fait, sans ce coup de bol incroyable. D'abord les cigarettes, puis la flasque, c'est elle qui a le plus amorti, ensuite la boîte d'Altoids, et ensuite elle. Quelle distance du cœur? 2 centimètres? Moins? Son estomac se contracte. Envie de vomir. Non, pas question. Surtout pas. Le trou dans sa poitrine recommencerait à saigner. Mais ça serait pas ça le plus emmerdant. Sa tête exploserait. Ce serait ça le pire. Maintenant qu'elle a dégagé la flasque et ses horribles griffes de métal, qui lui ont quand même sauvé la vie, elle respire un peu plus facilement. Elle se traîne au salon d'un pas lourd et contemple la mare de sang et de whisky. S'il s'était penché pour lui coller le canon dans la nuque, juste au cas où, alors que des vagues de nausée et de faiblesse la submergent, Freddy ferme les yeux et lutte pour ne pas perdre connaissance. Quand ça lui passe un peu, elle va jusqu'à son fauteuil et s'assoit très lentement. Comme une vieille avec le dos niqué, se dit-elle. Elle contemple fixement le plafond. Et maintenant? Sa première idée est d'appeler les secours, qu'une ambulance l'emmène à l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'elle leur dira? Qu'un type se prétendant mormon ou témoin de Jéhovah a frappé à sa porte, qu'elle lui a ouvert et qu'il lui a tiré dessus? Tiré dessus pourquoi? Pour quelle raison? Et pourquoi une femme seule comme elle irait-elle ouvrir à un inconnu à 10h30 du soir? Et c'est pas tout. La police viendrait. Et dans sa chambre, elle a 30 grammes d'herbe et plusieurs doses de cocaïne. Elle pourrait se débarrasser de cette merde, mais quid du matos dans sa salle informatique? Elle a une demi-douzaine de logiciels craqués plus une tonne d'équipements ultra chers qu'elle n'a pas exactement acheté. Les flics voudront savoir si par hasard, Madame Linklater, l'homme qui vous a tiré dessus n'avait pas quelque chose à voir avec ce matériel électronique. Peut-être que vous lui deviez un peu d'argent. Peut-être que vous travaillez avec lui, à voler des numéros de cartes bancaires et autres données personnelles sur Internet. Et ils pourront pas louper le répéteur en train de clignoter comme une machine à sous à Las Vegas, tandis qu'il envoie indéfiniment son signal par Wi-Fi et inocule un verre malveillant à chaque fois qu'il rencontre un zapit connecté. Qu'est-ce que c'est que ça, Madame Linklater? À quoi cela sert-il exactement? Et qu'est-ce qu'elle leur racontera? Elle regarde autour d'elle, espérant voir l'enveloppe de fric abandonnée par terre ou sur le canapé, mais évidemment, elle n'y est pas. Il l'a emportée avec lui. En admettant qu'elle ait contenu du fric et pas juste des bandes de papier journal découpées. Et voilà où elle en est. Elle s'est pris une balle. Elle a un traumatisme crânien. Par pitié, Seigneur, pas une fracture. Et elle est à court de pognon. Quoi faire? Éteindre le répéteur. Voilà la première chose à faire. Dr. Z est parasité par Brady Hartsfield. Et Brady est un sale engin. Quoi que soit en train de faire le répéteur, c'est une saloperie. De toute manière, elle allait l'éteindre, non? Tout ça est un peu vague, mais c'était bien ça le plan. L'éteindre et sortir de scène côté jardin. Il lui manque ce dernier paiement pour financer sa fuite, mais malgré ses tendances dépensières, elle a encore quelques milliers de dollars à la banque, et la Corn Trust ouvre à 9h. Et puis, elle a sa carte de retrait. Donc, éteindre le répéteur, étouffer dans l'œuf ce flippant site The End, se nettoyer la figure et foutre le camp en 4e vitesse. Pas par avion. Par les temps qui courent, les aéroports ressemblent à des pièges à souris. Mais par le premier train ou bus en partance pour l'Eldorado à l'ouest. C'est pas ça la meilleure idée? Elle est debout et se traîne vers l'antre aux ordinateurs quand la raison évidente pour laquelle ce n'est pas la meilleure idée la frappe. D'accord, Brady est parti, mais il ne serait pas parti s'il n'avait pas la possibilité de surveiller ses projets à distance, tout spécialement le répéteur, et rien de plus facile. Ce mec est doué en informatique, génial même. Ça lui arrache la gueule de l'admettre, mais c'est la vérité. Et il s'est sûrement ménagé une porte d'entrée dans son système. Dans ce cas, il peut venir le contrôler à n'importe quel moment. Tout ce qu'il lui faut, c'est un ordinateur portable. Si elle lui éteint tout son bordel, il le saura. Et il saura qu'elle est encore en vie. Il reviendra. Alors je fais quoi ? Chuchote Freddy. Elle se traîne jusqu'à la fenêtre en frissonnant. Il fait un putain de froid dans cet appartement une fois que l'hiver est là. Et regarde dans la nuit. Je fais quoi maintenant ? 12. Hodges est en train de rêver de Bowser, le petit bâtard querelleur qu'il a eu quand il était petit. Son père avait embarqué Bowser chez le veto pour le faire piquer, en dépit des pleurs véhéments de Bill, quand le pauvre vieux Bows avait mordu le petit livreur de journaux assez profondément pour nécessiter des points de suture. Dans son rêve, Bowser était en train de le mordre, lui, de lui mordre le flanc. Il ne veut pas lâcher, même quand le jeune Bill Hodges lui offre la meilleure friandise du sac. Et la douleur est atroce. La sonnette retentit, et il pense « c'est le livreur de journaux ». Va le mordre, lui. C'est lui que t'es censé mordre. Seulement quand il remonte à la surface du rêve et émerge dans le monde réel, il s'aperçoit que ce n'est pas la sonnette, mais le téléphone à côté de son lit. Son téléphone fixe. Il tâtonne pour l'attraper, le fait tomber, le ramasse sur la couette et réussit un halo approximatif et pâteux. « Je me suis dit que t'avais mis ton portable en silencieux !» lui dit Pete Huntley. Il a le ton bien réveillé et bizarrement jovial. Hodges cligne des yeux en direction de son réveil digital, mais n'arrive pas à lire. Son flacon dentalgique, déjà à moitié vide, lui cache la vue. Bon sang, combien en a-t-il pris depuis hier ? « Ça non plus, je sais pas faire », répond Hodges en luttant pour se redresser. Il n'arrive pas à croire que la douleur ait empiré si vite. C'est comme si elle attendait d'être identifiée pour bondir toute griffe dehors. « T'as besoin d'apprendre à vivre, Kerm ?» Un peu tard pour ça, se dit-il, tout en balançant ses jambes bord du lit. « Pourquoi est-ce que tu m'appelles à... » Il déplace le flacon de calmant. « À 7h20. »« Pouvais pas attendre pour t'annoncer la bonne nouvelle, » répond Pete. « Brady Hartsfield est mort. Une infirmière l'a trouvé en faisant sa tournée du matin. » Hodges se dresse comme un ressort, s'infligeant un coup de poignard qu'il ressent à peine. « Quoi ? Comment ?» L'autopsie sera pratiquée dans la journée, mais le toubib qui l'a examiné penche pour le suicide. Il avait un résidu de quelque chose sur la langue et les gencives. Le médecin de garde en a prélevé un échantillon, et l'assistant du légiste est en train d'en prélever un autre à l'heure où je te parle. Ils vont accélérer les analyses, vu que Hartsfield est une rockstar et tout ça. « Suicide ?» répète Hodges en triturant ses cheveux déjà électriques. La nouvelle est assez simple, mais il n'arrive pas à l'assimiler. « Suicide ?»« Il en a toujours été fan, » dit Pete. « Je crois bien que tu l'as dit toi-même, et plus d'une fois. »« Oui, mais... »« Mais quoi ?» Pete a raison. Brady était un fan du suicide, et pas seulement de celui des autres. Il était prêt à mourir en 2009 si les choses avaient mal tourné pour lui au City Center. Et un an plus tard, il entrait en fauteuil roulant dans l'auditorium Mingo avec 1,5 kg d'explosifs scotchés sous son siège. Autrement dit... Le cul à Grand Zero. Sauf que ça, c'était avant. Et depuis, les choses ont changé, non ? Mais quoi ?
Je sais pas, dit Hodges.
Moi, oui. Il a finalement trouvé un moyen de le faire. Aussi simple que ça. En tout cas, si tu pensais que Hartsfield était d'une manière ou d'une autre impliqué dans la mort d'Ellerton, Stover et Scapelli, et je dois te dire que moi-même j'y pensais, tu peux arrêter de t'en faire. Il a déposé le bilan. Lâchez la rampe, fermez le parapluie. Et on crie tous « Hurrah !»
Pete, j'ai besoin d'un peu de temps pour assimiler.
« Ça, j'imagine, » répond Pete. « T'as une longue histoire avec lui. En attendant, faut que j'appelle Izzy, lui faire commencer sa journée du bon pied.
Tu me rappelleras quand tu auras le résultat des analyses.
J'y manquerai pas. En attendant, sayonara, Mr. Mercedes, exact ?»«
Exact, exact. »
Hodges raccroche, va dans la cuisine et met la cafetière en route. Il devrait prendre un thé. Le café va foutre le feu à ses pauvres entrailles en lutte. Mais là, tout de suite, il s'en fiche. Et il ne prendra aucun calmant, au moins pendant un moment. Il a besoin d'avoir les idées aussi claires que possible. Il attrape son iPhone sur le chargeur et appelle Holly. Elle répond tout de suite, et il se demande brièvement à quelle heure elle se lève. 5 heures? Même plus tôt? Peut-être vaut-il mieux que certaines questions restent sans réponse. Il lui annonce ce que Pete vient de lui annoncer, et pour une fois dans sa vie, Holly Gibney en oublie les euphémismes.
« Putain, tu déconnes !»«
Non, sauf si Pete déconnait, et je crois pas, non. Il essaie jamais de déconner avant le milieu de l'après-midi. Et à cette heure-là, ses blagues sont jamais très bonnes. »
Silence d'une seconde, puis Holly demande.
« Tu y crois ?»«
Qu'il est mort ? Oui. Il pourrait difficilement y avoir confusion d'identité. Qu'il s'est suicidé ? Ça me semble. »
Il essaie de repêcher l'expression adéquate, ne la trouve pas, et répète ce qu'il a dit à son ancien coéquipier il y a moins de 5 minutes.
« Je sais pas. »«
C'est fini ?»«
Peut-être pas. »«
C'est aussi mon avis. Il faut qu'on trouve ce qui est arrivé à tous ces appitains vendus au moment de la faillite de la compagnie. Je ne comprends pas le lien que Brady Hartsfield pouvait avoir avec eux, mais toutes les pistes mènent à lui, et au concert, où il a essayé de se faire sauter. »
« Je sais. »
Hodges se représente à nouveau une toile d'araignée avec une belle grosse araignée en son centre. Une grosse araignée bien venimeuse. Sauf que l'araignée est morte. Et on crie tous « Hourra !» pense-t-il.
« Holly, est-ce que tu pourrais être à l'hôpital quand les Robinson iront chercher Barbara ?»«
Oui, je peux faire ça. »
Après une pause, elle reprend.
« Je serai heureuse de le faire. Je vais appeler Tanya, voir si ça ne les dérange pas. » Mais je suis sûr que non. Pourquoi ?
Je veux que tu montres à Barb un tapissage photographique de 6. 5 vieux mecs blancs en costume, plus le docteur Félix Babineau.
Tu penses que Myron Zakim était le médecin de Hartsfield ? Que c'est lui qui aurait donné leurs appits à Barbara et Hilda ?
Pour l'instant, c'est juste une intuition.
L'affirmation est modeste. C'est un peu plus que ça, en fait. Babineau a foutu un bobard à Hodges pour l'empêcher d'entrer dans la chambre de Brady, puis il a failli péter les plombs quand Hodges lui a demandé s'il se sentait bien. Et puis Norma Wilmer prétend qu'il conduisait des expériences non autorisées sur Brady. « Enquêtez sur Babineau, » elle a dit au barbare. « Coincez-le, je vous mets au défi. »
À un homme qui n'a probablement plus que quelques mois à vivre, ça ne semble pas un bien grand défi.
« Ok, Bill. » Je respecte tes intuitions, et je dois pouvoir trouver une photo du docteur Babineau dans les pages mondaines d'une de ces soirées de bienfaisance qu'ils organisent toujours pour l'hôpital.
Bien. Rappelle-moi le nom de ce fiduciaire, déjà.
Todd Schneider. Tu dois l'appeler à 8h30. Si je suis avec les Robinson, j'arriverai plus tard. Je viendrai avec Jérôme.
Oui, bien. Tu as le numéro de Schneider ?
Je te l'ai envoyé par email. Tu n'as pas oublié comment ouvrir tes emails.
J'ai le cancer, Holly, pas la maladie d'Alzheimer.
Dernier jour avant le traitement, n'oublie pas non plus.
Comment peut-il oublier ?
Ils vont l'hospitaliser dans l'établissement où Brady est mort, et le tour sera joué. La dernière affaire de Hodges restera non résolue. Il déteste cette idée, mais il n'y a aucun moyen de la contourner. Les choses vont trop vite.
Fais-toi un bon petit déjeuner.
C'est ce que je vais faire.
Il coupe la communication et jette un regard nostalgique à la verseuse remplie de café tout chaud. L'odeur est divine. Il la vide dans l'évier et va s'habiller. Il se passera de petit déjeuner.